m'a fait un bien beau blizzard ce matin. Ah ouais, ça souffle, c'est vivifiant ça. Oh, bah les girafes cosmiques sont en avance pour la saison, on dirait. Ouais, j'adore moi, j'adore cette saison. Oh, bon, il y a les pingouins rédhibitoires, va falloir les tondre, bien sûr. Enfin bon, ça c'est pas de la tarte. Bon, allez, hop, allez, ouvrir. Salut les pingouins. Oui, salut, salut, ça va comme vous voulez. Eh oui, c'est tonton Walter qui vient pour la tonte. Oui. Attendez, attendez, non, pas tous à la fois, on se calme. Laissez-moi remonter la cage à tonte d'abord. Et ça, c'est pas le plus facile. On se calme, on se calme. Il y en aura pour tout le monde, vous énervez pas, vous énervez pas. Les pingouins, c'est quand même terrible ça. Ça s'énerve les pingouins rédhibitoires, c'est terrible. Bon, je mets en marche le générateur. Et voilà. Bon, ça y est, alors à qui le tour? Bon, allez, tiens, viens là, toi. Voilà. 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 Pas mal comme ça, non? Allez, suivant. Ah, salut Georges, comment ça va toi? Ah ouais, un bon film, ouais. Et les enfants? Ah, les petits manchots, sympa. Bouge pas. Allez, à toi Bob. Alors, comme d'habitude, hein, bien dégagé derrière les oreilles. Pas de soucis, t'as vu. Attends, bouge pas,
Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 12. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez l'Inaudible, le podcast de l'Illisible, et c'est bien fait pour vous. C'est un volume de l'inaudible incroyablement parcimonieux et irrésistiblement dérisoire que vous avez en ce moment entre les oreilles. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Car dans ce volume 12 se rejoignent les contraires et s'annihilent les fausses dissemblances. Jugez-en. L'épilogue de notre ébouriffante enquête sur la mort de Marlon Brando. Toute la vérité sur les grands ongulés de ta mère. Une lecture de Lulu, éloge et glorification de l'embobinage mérovingien. Un qui a dit « pas piquer des hannetons », un peu de musique et quelques fulgurances. Alors, si ça vous dit, n'hésitez plus, lâchez la moulure des végétaux baroques, vérifiez vos vis-à-vis et en route pour de nouveaux paradoxes lenticulaires. Les années ont passé. L'énigme sur la mort inexpliquée de Marlon Brando et de Christopher Reeve est restée inexpliquée, elle aussi. Jusqu'au jour où...
de Superman. Il s'est suicidé.
Alors ça, suicide, embolie pulmonaire à la con, meurtre. Et d'abord c'est lequel celui-là? Lequel des types qui jouaient le rôle de Superman?
Ce détective, qu'est-ce qu'il a?
Des questions.
Des questions, oui. Mais c'est pas ça qui me manque, figurez-vous. Mais les réponses, oui, les réponses, c'est une autre paire de manches.
Ça va beaucoup plus loin que vous ne le pensez.
George s'est tué. Il a été tué.
Ben, faudrait savoir, hein. Il s'est tué ou il a été tué? Et qui c'est d'abord ce George? George Reeves? Vous voulez dire Christopher? Ou alors?
Wherever the target is danger, into the fray leaps the mighty man of steel.
Ah oui, George Reeves, le Superman de la télé.
Monsieur Reeves, parlez-moi de lui.
Celui qui avait des ressorts aux pieds pour sauter par les fenêtres. Celui qui traversait les murs en plâtre sans sourciller. C'est de ce Reeves-là qu'il est question.
Je vois comment les pièces du puzzle pourraient s'emboîter. Comment je voudrais qu'elles s'emboîtent.
George Reeves. Christopher Reeves. Marlon Reeves.
Ce meurtre, je crois que c'est vrai.
Mais oui que c'est vrai. C'est une histoire vraie.
Une histoire vraie, inspirée de la plus célèbre énigme d'Hollywood.
Bon, ça, c'est fait. Encore une enquête résolue. Ah, ça c'est le moment du film que je préfère. M'asseoir, peinard, dans mon bureau de la 35e rue. Me resservir un bourbon bien tassé. Et attendre. Attendre la prochaine aventure.
C'est comme ça qu'il travaille. Et l'affaire est enterrée.
Fasciné depuis toujours par les grands ongulés, aussi bien pour leur caractère hétérogène que pour leur façon de se faire remarquer sans en avoir l'air, le professeur Lao Tet Dan souhaitait depuis longtemps se livrer à un questionnement sur les ongulés holarctiques du Pliocène et du Pléistocène, leur vie, leur œuvre, leurs habitudes alimentaires et sexuelles, et surtout leur rapport au capitalisme communautaire, encore si mal connu de nos jours. Et puis, manque de bol, il s'est aperçu que le sujet avait déjà été traité. C'est pourquoi nous aborderons plutôt avec lui ce soir la broderie tonkinoise au Second Empire et ses influences sur la philosophie moderne. La broderie tonkinoise n'est pas un sport comme les autres, n'en déplaise aux turiféraires de l'Académie des Arts Plasmatiques et à leurs sous-fifres galonnés. Jamais, au grand jamais, les spécialistes universellement reconnus de cette discipline inévitablement accessible à tous n'auraient osé pronostiquer un tel désaveu immédiat et spontané. Et pourtant, replongeons-nous un instant dans le contexte équivoque et cependant persistant de cette époque révolue. 1907. Jacques-Édouard Grabourdin, dit le Tonkin, ouvre son premier laboratoire de broderie dynamique, selon la méthode bivalve, dite de Schopenhauer. À l'époque, il est le seul à croire à la viabilité du système. Devant le scepticisme de la communauté internationale, et malgré les mises en garde que ne manquent pas de lui adresser les gardiens de la tradition brodesque, Grabourdin s'obstine. Son laboratoire, il veut en faire le point de départ d'une révolution à sens unique, qui rendra impossible tout retour en arrière, et qui l'imposera, lui, Jacques-Édouard Grabourdin, dit le Tonkin, comme le nec plus ultra de la broderie expérimentale par procuration. Impossible, crient les partisans de la formule libre, alors largement répandue. Impensable, hurlent les défenseurs de la formule groupée, toujours à la mode à cette époque.
Impayable, ricanent les fidèles de la formule plein dessert avec juste un café et l'addition qui se trompe sans le savoir de débat. Mais rien n'y fait. Comme dit le poète, les chiens aboient et les vaches seront bien gardées. S'inspirant de cet adage, le Tonkin brode, débrode, rebrode, déborde, bédorbe et ainsi de suite. Et à force de broder, arrive ce qui devait arriver, le succès. Un succès colossal, imparable, irrépressible et incoercible. Jacques-Édouard Grabourdin est devenu la coqueluche du monde scientifique en cette deuxième moitié de la première décennie du premier siècle du nouveau millénaire. Que dis-je, la coqueluche ? La pneumonie, la grippe aviaire du moment. On ne jure plus que par le Tonkin. Ces broderies se vendent par paquet de 12, à foison, mais aussi à New York, Hong Kong, ou tout allure. On le voit partout. Dans les gazettes, aux premières de tous les spectacles, dans les vitrines des épiceries de luxe, on le verrait aussi à la télévision, si seulement elle existait. Son succès est tel que le voilà obligé d'ouvrir de nouveaux laboratoires, de créer des usines, de lancer des chaînes de magasins pour écouler le flot tumultueux de ses excès brodatoires. Le Tonkin est alors à la tête d'un empire. Mais voilà, tout à sa fièvre créatrice, il a laissé la conduite financière de l'entreprise à un homme de confiance, Chico Gugna. Un homme qu'il croyait de confiance, et qui se révélera bientôt homme de paille, puis homme de main, et enfin homme de peu. Ce Chico Gugna, homme du sérail, ne connaît rien à la broderie, mais le pognon, ça pardon, c'est son affaire. En quelques mois, il va détourner, centime après centime, sesterce après sesterce, l'essentiel de la fortune péniblement amassée par Jacques-Édouard Grabourdin. Lorsque le Tonkin, alerté par son contremaître, demandera à vérifier son coffre à la banque Larfeuille et Fils, il n'y trouvera qu'un trognon de pomme à moitié moisi et une carte de visite au nom de Nestor Burnet, le vrai nom de Chico Gugna, mais personne n'aurait pu s'en douter. Atteint au plus profond de sa chair, juste derrière le ventricule gauche, le Tonkin n'arrivera jamais vraiment à se reconstruire. Il faut dire qu'il lui manque l'essentiel pour cela, le mode d'emploi. Chico Nestor ne lui avait laissé que celui du placard Le Petit Bobby de chez Mikea, et on sait que c'est le plus difficile à construire. Pas étonnant donc qu'on ne retrouve la trace de Jacques-Édouard Grabourdin que 25 ans plus tard, dans la cellule 125 de l'asile pour dégénérés psychanthropes atteints de perturbations cliniquement déplorables, ouvert à Calcutta en 1932 par la sœur de Mère Teresa, c'est-à-dire sa tante. Le Tonkin n'est plus que l'ombre de lui-même, ce qui est toujours mieux que d'être l'ombre de son chien, d'accord, mais peut-être moins bien que l'ombre d'un doute. Et encore, j'en suis pas très sûr. Jacques-Édouard Grabourdin rend son dernier soupir à ses créanciers le 1er janvier 1937, dans sa cellule capitonnée de l'asile pour dégénérés psychanthropes atteints de perturbations cliniquement déplorables. Il ignorera, jusqu'à son ultime souffle, que son nom brille désormais au firmament de la broderie libre, groupée et tonkinoise réunie. Parfois, je me dis que ça vaut mieux.
Regardons les choses en face. Que vous le vouliez ou non, il faut prendre la pleine mesure du temps nécessaire à la prise de conscience efficace d'un retour sur investissement adapté. Sinon, franchement, c'est pas la peine. Alors, Lucky qui a dit ? Mais alors quoi ? C'était si dur que ça ce coup-ci ? Eh ben peut-être, puisque personne ne l'a trouvé. En tout cas, personne n'a donné la bonne réponse, ni dans les commentaires, ni par mail. Il y a bien Pierre Fosco qui a cru reconnaître un extrait de Dallas, mais il devrait prendre mieux soin de ses oreilles quand même. Et même Laurent a dû jeter l'éponge. C'est vous dire si c'était dur. Laurent, tu me rendras l'éponge s'il te plaît, parce que j'en ai qu'une et j'en ai besoin, vraiment. Alors, sans plus tarder, la solution du mystère.
Wild B, Wild Bill. I'll have a brandy Alexander.
Alors, vous avez remarqué qu'il y avait deux voix. La première appartient à un barman de Deadwood, dans le Dakota,
et la seconde est celle de James Butler Hickok, mieux connu sous le surnom de Wild Bill Hickok. Eh oui, rien que ça, la vraie voix du célèbre Marshall, l'ami de Buffalo Bill, le compagnon de Calamity Jane, enregistré le 2 août 1876 au Carl and Mann's Saloon, ce qui en fait sans doute l'un des plus vieux enregistrements de la voix humaine. Un document d'autant plus exceptionnel que quelques heures plus tard, Wild Bill Hickok était abattu d'une balle dans la tête, dans ce même saloon, par James McCall, qui voulait venger la mort de son frère. Vous le croyez, ça ? Allez, on le réécoute.
Wild Bill, Wild Bill !
I'll have a brandy, Alexander.
Belle voix tout de même, ce Wild Bill. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on a un autre Kikadi sur le feu. Il sera plus facile cette fois, je pense, en tout cas. Écoutez.
Surely you can't be serious.
I am serious. And don't call me Shirley.
Encore que...
Surely you can't be serious.
I am serious. And don't call me Shirley.
Alors, comme personne n'a gagné le magnifique ouvrage offert la dernière fois,
les chroniques de l'inaudible,
eh bien, on le remet en jeu. Eh oui, on est comme ça, l'inaudible, grand seigneur. Allez, vite, un petit commentaire sur le blog de l'inaudible.
http://www.podemus.com
ou un mail à wproof@gmail.com. Et c'est comme si c'était fait. Lulu lit. Et quand Lulu l'a lu... Eh bien là, laisser les lois des lieux élogieux légèrement laminés, se louer librement à la longue, ça vaut mieux. Aujourd'hui, Lulu a lu « Éloge et glorification de l'embobinage mérovingien » par Jean Eustache Mousse.
C'est une constante des arts mécaniques de notre ère que l'usage intensif d'une décalcification laborieuse ne procure à son auteur qu'une euphorie toute relative. Les plus grands maîtres, ou maîtres 50, l'ont admis, rien ne sert de le contester aujourd'hui. D'ailleurs, il est trop tard pour le faire, ça va fermer. Voilà pourquoi, si l'on veut comprendre et progresser dans cette rude discipline, il vaut mieux se tourner sans hésiter vers l'embobinage mérovingien. C'est ce que nous allons faire en compagnie d'un spécialiste de cet art majeur, le professeur Jean Eustache Mousse. Professeur, bonjour.
Bonjour, banane.
D'abord, comment dois-je vous appeler ? Professeur ? Maître ? Monsieur ?
Appelez-moi Jules. J'ai toujours voulu m'appeler Jules.
Bien. Bien, alors, Jules, parlons un peu de votre livre.
Oui.
Pourquoi un tel sujet ?
Eh bien, voyez-vous, je me suis toujours intéressé aux palmipèdes. Les gros, les petits, les bleus, les jaunes, tous les palmipèdes, en fait.
Oui.
Vous voyez ?
Non, pas très bien.
Non, parce que les palmipèdes, c'est un univers passionnant. On croit que c'est fastoche, que ça casse pas trois pattes à un canard. Erreur, grave erreur. Les palmipèdes, je vous le dis tout net, banane, c'est l'avenir de l'homme.
Certes, Jules, certes. Mais l'embobinage mérovingien, alors ?
Quoi, l'embobinage ? Quel embobinage ?
Eh bien, mais celui dont vous parlez dans Éloge et glorification de l'embobinage mérovingien.
Éloge de quoi ?
Mais enfin, professeur, Jules...
Mais quoi, banane ? Qu'est-ce que tu me déblatères avec tes bobines ?
Bien, ok. On va rester calme, hein ? Professeur...
Jules.
Jules, reprenons du début. Vous êtes bien l'auteur de Éloge et glorification de l'embobinage mérovingien, aux éditions Mickey Parade.
Ah, mais non, pas du tout. Mais de quoi me parlez-vous, là ?
Mais de ce livre-là ? Enfin, vous êtes bien le professeur Jean Eustache Mousse ?
Ah, mais non, pas du tout, banane.
Mais qui êtes-vous, alors ?
Je suis César l'Empereur.
César quoi ?
César l'Empereur, l'auteur de Palmipède à plume et à poil. L'Empereur, c'est mon nom, et César, mon prénom. Eh oui, c'est pas de ma faute, c'est mes parents. C'est pour ça que je préférerais m'appeler Jules, ce serait plus discret.
Mais Jean Eustache Mousse, alors ? Il est où ?
Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache ? Je suis pas marié avec.
Bah oui, mais...
Si j'étais marié avec, d'abord, je m'appellerai César Mousse. Vous imaginez un peu ?
Écoutez, professeur, je suis...
César Mousse, non mais sans blague.
Je suis désolé, vraiment je suis désolé, mais il y a eu confusion.
Mousse, en voilà un nom ridicule.
En fait, j'attendais quelqu'un d'autre.
Jules Mousse, n'importe quoi.
Ah, vous voyez, c'est une erreur.
Ben oui, je vois bien, oui.
Eh oui, voilà quoi.
Vous voulez pas qu'on parle de palmipède un peu ?
De palmipède ? Non mais sans blague. Vous croyez pas que je me suis assez ridiculisé comme ça, non ? Non, écoutez, ça va bien, là, on coupe, là, hein, on coupe.
Jules César Mousse, non mais je vous jure.
Il s'appelle Vincent Bergeron. Il vit et sent comme un berger rond. Machiavélisme magnifique. 6 minutes 53. C'est inaudible. C'est sur l'inaudible.
XM Audible.
It's only in Audible.
Vincent Bergeron a 27 ans, il vit à Québec et compose, dit-il, une musique électroacoustique agitée, mais harmonisée et basée sur du sampling très précis, peu répétitif, mais structuré, malgré les apparences. Machiavélisme magnifique est extrait de son album « L'art du désarroi » en vente sur son site, dont vous trouverez l'adresse sur l'inaudible
http://www.podemus.com.
Si jeune, et déjà on m'abuse. Et voilà, c'est fini. Encore une bonne chose de faite. L'inaudible a frappé par ici, il refrappera par là. Merci aux 58 abonnés au podcast. Merci aux 3 visiteurs anonymes d'Orléans, Paris et Strasbourg qui sont venus sur la carte frappeur de l'inaudible mais qui n'ont pas eu envie de s'inscrire. Merci aux 2068 visiteurs qui sont passés faire un tour sur le blog de l'inaudible
http://www.podemus.com,
que ce soit de Maracay au Venezuela, d'Istanbul en Turquie, de Sainte-Marie de la Réunion, du Bronx aux United States, de Quito en Ecuador ou de Montastruc la Conseillère en Haute-Garonne. C'est fini, fait tout noir. J'y vois plus rien. Quittons-nous, bons amis. Prenez bien soin de vous. Salut. Et à bientôt. Peut-être.
See the adventures of Superman.